Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans la Méridienne. Il est 11h sur Radio Campus Tours. Souvenez-vous, récemment, je recevais dans cette émission Guillaume Singal, maître de conférences à l'Université de Tours, et Alexandra Stewart, enseignante-chercheuse et membre du département de français à l'Université de KwaZulu-Natal. Sa thèse de doctorat portait sur Pessoa, Marie Ndiaye et Ananda Devi. Je vous propose, pour introduire le sujet de cette émission, de réécouter un extrait de cette interview.
Alors, nos étudiants à l'université sont surtout des personnes qui n'ont jamais appris le français avant. Donc, ils arrivent avec un niveau zéro de français. Et donc, ce sont des débutants. Donc, on commence avec vraiment les bases. En première année, c'est surtout des cours de langue. On essaie aussi d'enseigner les textes africains avec un lien africain pour montrer que le français c'est aussi une langue africaine. Par exemple, on fait Aya de Yopougon avec nos étudiants de deuxième année, qui est une bande dessinée de Marguerite Aboué, qui se déroule en Côte d'Ivoire qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Aya.
Pour les débutants, c'est une bande dessinée. Et après, dans les années suivantes, quel livre vous pouvez utiliser, par exemple?
Alors, cette année, par exemple, on a fait Les Impatientes
De Jaili Amadou Amal.
Oui, ouais.
D'accord,
ouais. Hein.
C'est pas trop dur pour des troisième années de...
Non, la langue n'est pas super difficile. C'est assez accessible. Oui, et puis c'est une réalité qui intéresse à nos étudiants parce que c'est quelque chose qui se passe en Afrique, qui n'est pas très loin de notre réalité à nous, en Afrique du Sud.
D'ailleurs, comment va la jeunesse en Afrique du Sud ?
Dans notre université en particulier, on a beaucoup d'étudiants qui viennent des zones rurales, qui ont beaucoup de problèmes financiers notamment. D'ailleurs, ce sont les étudiants qui sont souvent les premiers à aller à l'université dans leur famille. Donc il y a un manque de confiance en soi, je pense. Et voilà, d'autres problèmes aussi liés aux besoins financiers. Donc oui, je pense que j'ai une vision de la jeunesse un peu particulière à mon université, à moi, mais oui.
Il faut peut-être rappeler ou dire qu'en Afrique du Sud, le taux de chômage officiel est autour de 30%.
Ouais.
Et on dit officiel parce que je crois que la réalité est un peu au-dessus.
Oui.
Et le taux de chômage des jeunes est encore plus important.
Ouais.
Donc les études sont en partie sponsorisées. Enfin, on ne dit pas ça en français, mais ce n'est pas sponsored, je ne sais plus. Les études sont financées en grande partie pour beaucoup d'étudiants par l'État.
Oui.
Mais qu'en dehors des études, en fait, les moyens manquent, en fait. En dehors du financement des études, donc c'est quand même aussi un pays qui est quand même en proie à des problèmes de, effectivement, chômage, pauvreté, misère même, hein, Il faut savoir que l'échange n'est possible en raison du déséquilibre économique et financier entre nos deux pays que parce que le service des relations internationales, le conseil régional finance en fait le séjour des étudiants sud-africains qui viennent chez nous à Tours. Sinon, presque aucun de vos étudiants, Alexandra, il me semble, n'aurait les moyens en fait, d'assurer le coût de la vie le plus basique en France.
C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens brillants qui viennent à l'université pour étudier. Et ça veut dire que derrière, ils ont moyennement d'espoir de trouver du travail. Quel état d'esprit ça donne de dire qu'en même temps, ils ont envie d'apprendre des choses et qu'en même temps, ils savent que derrière, ça va être difficile.
Oui.
Je ne sais pas, est-ce que le français, justement, ce n'est pas une manière d'avoir... je me suis toujours demandé, mais on n'en a jamais parlé, donc c'est bien qu'on se pose la question ici. Est-ce que les études de français, ce n'est pas une manière aussi d'avoir un travail? Enfin, il y a des postes d'enseignants de français en Afrique du Sud. Je pense que le métier de professeur, il reste quand même très socialement valorisé en Afrique du Sud, ce qui est de moins en moins le cas en France. Je ne sais pas, il n'y a pas cette dimension-là aussi?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc le français, c'est une opportunité. Et... oui, c'est vrai que le métier de l'enseignant est valorisé. C'est quelqu'un qui est respecté dans la communauté, un enseignant. Donc oui, le français, ça donne la possibilité de trouver un travail après. Je pense que beaucoup d'étudiants ne savent pas trop ce qu'ils vont faire après l'université, mais on a surtout beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas pourquoi ils étudient le français. C'est un module obligatoire dans le cadre d'une licence en relations internationales. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils ont un talent pour cette langue, une passion pour la langue française. Et donc, ils continuent à faire des études en français. Ils font une spécialisation en français. Et là, oui, il y a des chances pour... il y a des opportunités pour un emploi et aussi pour faire quelque chose comme cet échange, pour voir le monde, pour découvrir une culture qui est autre.
C'était un extrait de l'émission La Méridienne avec Guillaume Singal et Alexandra Stewart, enseignante-chercheuse et membre du département de français à l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Vous l'aurez compris, le sujet de cette émission La Méridienne est bien l'enseignement du français, langue étrangère. Je me suis rendue à l'université de Tours sur le site des Tanneurs où se tenait une rencontre pour les professeurs et les agents administratifs qui travaillent dans le domaine du français, langue étrangère. Je vous propose d'écouter trois interviews réalisées sur place des acteurs qui proposaient des conférences dans le cadre de ces deux jours de présence à l'Université de Tours autour du français langue étrangère. Bonjour Gilles Capadoro.
Bonjour.
Alors vous êtes président du groupement FLE, quel bon vent vous amène à Tours?
Eh bien, on est très heureux d'être à Tours, sur la proposition hein, de la directrice du QF de Tours, qui est Marie-Pierre Belloc, qui remplaçait la part intérim par Christian Gaujac. Et l'idée, c'était d'être dans un centre universitaire de français pour rassembler des enseignants et des administratifs de centres venant de toute la France dans le cadre de nos journées annuelles de formation. C'était un lieu un peu emblématique et on a absolument voulu y être et le faire ici.
Alors le FLE, c'est le français langue étrangère. Peut-être que vous voudriez préciser pour nos auditeurs en quoi ça consiste le groupement FLE.
Alors le groupement FLE, c'est une association professionnelle qui propose à des centres labellisés qualité FLE de le rejoindre pour partager de la formation à nos métiers, pour partager des éléments aussi de promotion, travailler sur la qualité, travailler aussi à la défense des intérêts des écoles de français en partenariat avec les acteurs institutionnels, hein, que peuvent être FEI, la DGLF, Campus France. Donc voilà, c'est un endroit où on travaille tous ensemble pour élever la qualité et les intérêts de la profession.
Alors vous êtes également directeur, co-directeur du Centre méditerranéen d'études françaises et vous œuvrez aussi à l'Alliance française de Monaco en tant que vice-président. Quelle est la différence entre ces structures ?
Oui, alors moi je travaille pour le Centre méditerranéen qui est un centre de français langue étrangère qui est spécialisé dans l'accueil des publics scolaires. Ça montre bien la diversité des publics qui sont accueillis dans les différentes écoles du groupement FLE. Et alors c'est vrai que par ailleurs je fais partie du conseil d'administration de l'Alliance française de Monaco. Les alliances françaises, comme vous le savez, il y en a 800 dans le monde, mais il y en a une bonne vingtaine en France qui agissent comme écoles de langue, et ce sont des écoles qui ressemblent tout à fait aux autres écoles de français langue étrangère, par exemple celle du groupement. Bon, elles ont une spécificité, elles ont une histoire, elles appartiennent à un réseau prestigieux, elles ont une marque de fabrique, je dirais, qui les rend un petit peu particulière, mais en réalité, dans le monde du FLE, on essaye de tous travailler pour tirer ces métiers du FLE et cette activité du FLE dans le même sens.
Laure Colombine Madeleine, la vice-présidente des relations internationales de l'Université de Tours, faisait état de difficultés du FLE. Quelles sont-elles, à votre avis ?
Les difficultés du FLE, elles peuvent aujourd'hui tenir d'abord à la place du français dans le monde, parce que cette place, elle est mouvante. Ça dépend un petit peu de comment elle évolue dans les systèmes éducatifs internationaux, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université. Il y a des éléments géopolitiques qui viennent interférer. Mais il y a aussi des opportunités qui se créent. Aujourd'hui, si on veut travailler avec l'Afrique, il faut parler français. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine des opportunités. Et après, il faudra voir ce que donnent les comportements des nouvelles générations par rapport aux déplacements aériens. Tout ça pour dire qu'il y a des éléments favorables, très favorables, concernant l'évolution du français à langue étrangère. Mais il y a aussi aujourd'hui des contraintes. Et il faut prendre les deux en compte pour essayer de pérenniser les activités autour des écoles de français langue étrangère.
Est-ce qu'il y a, disons, un moindre intérêt pour la langue française, par exemple, en Afrique de l'Ouest ?
Alors, bon, si on s'en tient aux évolutions géopolitiques récentes, il est bien clair qu'il y a un peu une redéfinition de la présence des intérêts français et de la culture française dans cette zone-là. Je pense qu'il faut en tenir compte et puis attendre de voir comment les choses évoluent.
Interview de Fatou Diom sur TV5 Monde dans l'émission L'Invité.
Véritable combattante de la liberté, Fatou Diom. C'est un peu comme ça qu'on peut vous présenter, évidemment. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, écrivain, auteur de livres à succès, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans une vingtaine de langues, et puis des pamphlets comme Marianne porte plainte ou Marianne face aux faussaires, pour lequel vous avez reçu à chaque fois les émissions. Beaucoup d'impact avec vous, Fatou. Vous diriez aujourd'hui que Marianne, en Afrique, est en difficulté aujourd'hui. On ne veut plus de Marianne en Afrique aujourd'hui.
Ah, peut-être la politique de Marianne, on voudrait l'améliorer. Donc ce ne sont pas tous les Africains qui râlent après Marianne. Le dialogue, n'est-ce pas, de Léopold Sédar Senghor me semble s'imposer.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, ça n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond, les Africains aiment la France, les valeurs de la France.
Vous savez, ce sont plusieurs siècles de partage, de rencontres, de cultures. Donc nous savons ce que nous avons en commun avec la France, avec l'Europe. La question, c'est est-ce que la France aussi se rend compte de ce qu'elle partage avec nous ? N'a-t-elle peut-être pas négligé cette fraternité-là ? Peut-être que les gens ont besoin d'être rassurés pour cette fraternité-là, pour pouvoir la consolider. Moi, je crois au dialogue et je croirai toujours au dialogue.
Oui, oui. Et même si vous aviez, dans une précédente émission, mis en cause notamment Éric Zemmour, vous aviez dit qu'on le mette dans l'avion.
Parce qu'il ne représente pas lui tout seul, Marianne. Vous savez, la France, ce n'est pas que le décret Crémieux. Donc la France, c'est beaucoup d'autres choses dans son histoire, beaucoup d'autres rencontres. Les légitimités sont différentes, mais elles sont multiples.
Oui, mais oui. Il y a une certaine France qui vous inquiète vis-à-vis de l'Afrique. Au fond, c'est l'idée aussi de la France-Afrique. Ce qu'a été cette relation paternaliste?
Vous savez ce qu'on appelle la France-Afrique? Moi, ma génération, nous ne l'avons pas vraiment vécu finalement. La France-Afrique, ce sont les anciens qui ont vécu la colonisation, qui en parlent le mieux, qui la connaissaient le mieux. Nous avons les résidus, on va dire. Et ça ne tient qu'à nous. Donc, je veux dire, notre génération d'Africains et de Français, pour faire en sorte que cet héritage-là ne soit pas seulement douloureux, mais constructif. Donc voilà, peut-être que la France a pensé sa place inaliénable, inattaquable et définitive. Si c'est le cas, c'était une erreur. Donc il fallait peut-être prendre beaucoup plus en compte les attentes des Africains, leurs revendications, pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases. On ne peut pas garder juste l'héritage colonial, il faut bâtir autre chose.
Fatou Diom, dans l'émission L'Invité sur TV5 Monde.
On peut dire aussi que l'apprentissage du français, ça peut ou ça a pu être lié à quelque chose qui relève du prestige, disons peut-être aussi de se qualifier socialement. Est-ce que c'est toujours le cas et où?
Oui, ça l'est.
Gilles Capadoro.
Parce que bon, on sait très bien que jusqu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, le français bénéficiait d'une très très haute image hein, en matière de prestige. C'était les élites européennes et au-delà qui pratiquaient le français. Alors, ce sont des effets qui se sont un petit peu tassés dans les 30 dernières années, surtout avec la montée en puissance des langues concurrentes comme l'espagnol notamment. Et puis le fait que bon, ce prestige a été un petit peu mis à mal, mais par une sorte d'un petit peu de rééquilibrage des influences mondiales. Mais je crois que si on s'en tient à ce que la France peut offrir en matière de prestige aujourd'hui, que ce soit, je sais pas, la culture, la mode, les industries de pointe, ça reste quand même, je crois, un vecteur fort, une belle image finalement à faire transiter sur la planète entière. Et je pense que c'est un facteur d'attraction et de rêve. Il faut arriver à maintenir ce désir de Français, ce désir de France.
D'ailleurs, il y a même des associations qui militent pour la recherche en français, par exemple l'ACFAS.
Alors ça, c'est un vrai sujet, je crois, qui a été pris à bras-le-corps, il me semble, par les autorités, parce que il y a une concurrence terrible que se livrent les pays pour attirer les étudiants internationaux dans les universités. Et c'est vrai que la France propose des cursus en français, mais aussi de plus en plus en anglais pour être compétitif. Et ça, c'est un problème de fond, il faut essayer de trouver un point d'équilibre qui ne défavorise pas trop le français. Et il faut qu'on soit très attentif à ce que la recherche intègre des productions en français, parce que si tel n'est pas le cas, on risque un glissement et petit à petit une domination de l'anglais, y compris dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, ce qui serait préjudiciable.
Allez, on va peut-être démonter quelques fake news. Est-ce que le français est une langue difficile à apprendre ?
Oui et non. Il me semble que pour survivre, ou pour en tout cas vivre avec des éléments de base, ça ne me paraît pas insurmontable. Malgré tout, il en reste pas moins que le français n'est peut-être pas la langue la plus facile à apprendre. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour contribuer à ce qu'elle soit plus facile et avec des apprentissages structurés.
Et alors, autre cliché, est-ce que les Français sont vraiment plus mauvais en langue étrangère que les autres ?
Je pense que c'est encore le cas, parce qu'on a surfé en bon français sur le prestige et la notoriété du français à l'étranger, avec peut-être un besoin un petit peu moindre que d'autres nationalités. Mais c'est un écart qui est en train de se réduire. Comme il a été dit ce matin, les petits Français baignent dans la culture anglophone mondiale, notamment liée à Internet et aux réseaux sociaux, et je crois qu'on évolue sur ce point. Tant mieux.
Donc ce matin, vous y faisiez allusion, il y avait une conférence de Michel Boiron sur penser l'avenir de l'enseignement et de l'accueil, donc l'enseignement du français, bien sûr. Donc est-ce que vous voudriez peut-être nous préciser, à votre sens, est-ce que l'on doit enseigner le français de la même façon dans le monde entier ?
Non, puisque il y a un certain nombre de méthodes et de techniques qui peuvent être employées dans les pays d'origine des étudiants. Et il est bien clair que si on veut continuer à attirer des étudiants étrangers en France, il faut leur servir des processus d'apprentissage qui soient dynamiques, qui soient en lien direct avec l'expérience de vie qu'ils font en France, avec des activités, des supports d'activités qui sont créatifs, qui ne sont pas forcément liés à des méthodes, ou en tout cas qui complètent les méthodes qui pourraient être utilisées à certains moments, de façon à créer une expérience unique. C'est ça qui fait la différence entre ce qui peut être fait à l'étranger et, on va dire, le côté exclusif d'une expérience en France.
D'ailleurs, question peut-être un peu naïve, mais de quel français parle-t-on ? Est-ce que c'est le français standard de Paris, de France Culture ? C'est lequel ?
Mais c'est un français multiple. On sait très bien que la francophonie, c'est pas seulement la France, mais en fait c'est la planète entière, que le français est une langue qui est protéiforme, hein, qui évolue, et chaque acteur de l'enseignement du français doit se saisir de cette francophonie et l'adapter à son action. Mais on est d'accord sur le fait que le français est multiple.
D'ailleurs, est-ce que ça peut être une invitation faite aux enseignants, de français langue étrangère, peut-être d'intégrer quand c'est pertinent des auteurs, notamment des auteurs issus des diasporas ?
C'est absolument nécessaire. Je crois que ça tombe sous le sens.
Pour pas que ça fasse trop, disons, white bread.
Oui, mais on est d'accord. Il faut diversifier. Il faut que les sources soient diversifiées et que on embrasse un petit peu l'ensemble de la francophonie dans les supports littéraires qui sont proposés aux étudiants, bien sûr.
Et ça, est-ce qu'il y a des formations spécifiques ou c'est au bon vouloir de chacun ?
Il y en a de plus en plus, hein. L'OIF notamment s'en saisit, mais la FIPF aussi, clairement. Et je crois que toutes les écoles ont bien conscience qu'il faut aller au-delà de nos barrières frontalières, je pourrais dire, et qu'il faut aller puiser des ressources et des richesses sur l'ensemble de la francophonie. Oui.
Donc il était aussi question dans cette conférence ce matin de la plus-value d'un enseignement en France, puisqu'il existe des MOOC et plein d'autres choses. Alors, pour le groupement FLE, quelle est la plus-value, justement, d'apprendre le français en France ?
C'est que l'expérience doit s'avérer unique, dans le sens où y a des éléments, des ingrédients qui sont exclusifs. Le fait de rencontrer, d'arriver un petit peu comme une personne neuve dans un établissement scolaire, de français langue étrangère, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, de fabriquer avec ces gens des émotions communes autour de l'apprentissage de la langue française, mais ça doit être un apprentissage actif, dans la classe, en dehors de la classe. Il doit y avoir une dynamique forte qui crée justement un parcours, une trajectoire qui ne peut être réalisée que dans des écoles, sur place, en France, avec encore une fois tous les ingrédients nécessaires.
Il était question aussi de donner envie aux gens de revenir, de parler positivement de leur expérience, voire de mettre des likes sur les Google et autres. Donc ça, cette idée d'expérience client, est-ce que les enseignants sont toujours à l'aise avec ?
On est obligé de le prendre en compte et ça fait partie du discours qui doit être fait dans les écoles pour que, quel que soit le personnel de l'école, que ce soit les enseignants, les personnels administratifs, mais en fait toutes les personnes qui travaillent dans les écoles, soient sensibles à la qualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la belle qualité FLE, hein, qui, je le rappelle, avec France Éducation Internationale, nous permet de travailler sur plusieurs domaines, que sont l'accueil, la formation, les programmes, les locaux, la gestion. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que si tout le monde a le sentiment qu'il est nécessaire d'observer, de faire attention à la qualité et au contentement du client, on a un résultat qui est en général favorable et de bons résultats. Et si on a de bons résultats, l'expérience est bonne pour les clients, les apprenants. Et ensuite, ce sont des prescripteurs, ce sont des ambassadeurs et ce sont des gens qui reviennent.
Alors, il y a peut-être aussi des clients, disons, involontaires. On peut penser au public réfugié. Donc, il y a d'ailleurs ici au CFE un DU Passerelle, donc pour des jeunes gens migrants. Alors, quel est le rôle des structures FLE? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec le gouvernement français pour l'accueil des personnes dans ces situations-là? On peut penser aussi aux personnes qui sont venues d'Ukraine.
Oui, parmi les centres de FLE en France, groupement FLE et puis Alliance française, ADQF et d'autres, il y a des centres qui ont fléché leurs activités vers ces publics-là et qui ont bénéficié justement des dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour la question de l'immigration. C'est important, ça fait partie de la promesse républicaine qu'il y ait un certain nombre de possibilités d'intégration par le français, puisque ça doit être ça le ciment finalement d'une population qui, si elle est amenée à rester sur le territoire et à s'implanter, doit être en mesure de disposer d'un français de bonne qualité.
99.5 FM.
À tous les auditeurs de Radio Campus Tour, c'était Grand Corps Malade, à bientôt.
www.radiocampustour.com.
Décembre, la piste de la francophonie pour la planète, un événement exceptionnel à vivre sur TV5 Monde.
Bonjour Richard Bossuet.
Bonjour.
Alors vous représentez ici TV5 Monde, on est à l'université de Tours, toujours sur la journée du groupement FLEU, et donc vous allez proposer aujourd'hui un atelier sur les nouveaux outils pour la classe liés à l'émission 7 jours sur la planète. Alors, est-ce que vous voudriez nous en dire ?
Alors, 7 jours sur la planète, c'est un magazine d'information qui est diffusé sur TV5 Monde depuis 2006 et qui a été complètement refondu en 2024. Donc, de 7 jours sur la planète, il s'appelle maintenant tout simplement 7 jours. C'était une appellation que beaucoup de gens utilisaient parce que c'était plus court. Et la particularité de ce magazine, c'est que c'est un magazine d'actualité tout à fait normal, sauf qu'il est sous-titré en français et adossé à ce magazine un dispositif pédagogique pour l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère.
Alors, comment on se retrouve à TV5 Monde sur ce programme ?
Alors moi, je suis à TV5 Monde depuis bientôt 24 ans. Je m'y suis retrouvé complètement par hasard au départ sur un travail plutôt administratif. Et puis petit à petit, je me suis un peu spécialisé sur la promotion de ce dispositif pédagogique qui existe depuis maintenant 30 ans. C'est-à-dire que TV5 Monde développe des outils pédagogiques pour les professeurs de français langue étrangère à partir de la vidéo, donc à partir des programmes de TV5 Monde, avec une particularité, c'est que ce ne sont pas des programmes qui sont fabriqués, conçus pour l'enseignement, ce sont des programmes de télévision tout à fait normaux, et le dispositif pédagogique en fait se sert de ces programmes pour créer du matériel spécifique aux différents niveaux du cadre européen commun de référence, avec aussi un postulat de base, c'est qu'une vidéo n'a pas de niveau. Ce sont les activités qu'on va créer autour de cet extrait vidéo qui vont permettre de l'utiliser avec des débutants, des intermédiaires, des avancés.
Alors vous parlez de vidéo totalement normale, c'est quoi une vidéo anormale ?
Une vidéo anormale dans l'enseignement du français, de notre point de vue, c'est une vidéo qui aurait été fabriquée spécifiquement pour l'enseignement, donc très didactique, avec un débit de parole un peu artificiel. Souvent, ce sont des dialogues qui sont très articulés ou des choses comme ça, qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que nous sommes une chaîne de télévision, donc on utilise ce qu'on sait faire, des programmes de télévision.
Alors, où est l'éducation aux médias ? Parce que là, on est sur des vrais programmes, donc pas des faux programmes inventés à des fins pédagogiques. Où est la dimension éducation aux médias ? Comment elle est croisée, peut-être, avec celle de l'apprentissage de la langue ?
Alors, la rédaction de TV5 Monde est quand même très au fait de cette éducation aux médias qui est vraiment très très importante dans l'enseignement en général et pas que l'enseignement du français langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des rubriques qui vont un petit peu démonter aussi les fausses informations. Donc dans l'émission, il y a une rubrique qui est consacrée à l'éducation aux médias. Et dans le matériel pédagogique qui est conçu par nos partenaires, il y a quasiment à chaque fois des activités qui portent sur de l'éducation aux médias et à l'information.
Alors, dans sa conférence inaugurale, Colombine Madeleine, la vice-présidente de l'Université de Tours aux relations internationales, faisait état de valeurs, en fait, que quand on enseigne le français langue étrangère, on transmet une culture et des valeurs. Est-ce que l'éducation média, ça véhicule certaines valeurs propres à la France ?
Alors, propre à la France, je ne sais pas. Mais je dirais que l'éducation aux médias, c'est une matière transversale dans l'enseignement en général. Et c'est surtout des compétences qu'on essaye de transmettre à des apprenants, à savoir que c'est pas parce que c'est une émission de télévision que tout est vrai, que tout correspond à nos valeurs. Et donc, c'est vraiment développer ce regard critique aussi sur les médias qui est important.
Alors, dans ce programme, où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes derrière la caméra, devant la caméra ? Vous écrivez les contenus ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, moi, pas du tout. Moi, je suis chargé de communication pour la direction de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Donc, c'est une équipe de 5 personnes à TV5 Monde qui coordonne justement tout ce travail de création de matériel. Et donc, moi, je fais la promotion de nos 2 sites et de notre application. Donc, un site pour les enseignants, qui s'appelle enseigner.tv5monde.com, où les enseignants vont trouver plus de 1000 dossiers pédagogiques. Actuellement, c'est à peu près le nombre de dossiers qui sont disponibles. Et puis un site et une application pour téléphone portable pour les apprenants, où là, il y a plus de 4000 exercices qui sont disponibles pour l'apprentissage du français.
C'est gratuit ?
C'est complètement gratuit, sans publicité, puisque nous avons une mission de service public. Hein, TV5 Monde, c'est une chaîne multilatérale avec un financement public, lui aussi multilatéral. TV5 Monde n'est pas une chaîne française. On représente vraiment la francophonie, puisque nous sommes financés également par la Belgique, la Suisse, le Canada, le Québec et la principauté de Monaco qui finance cette chaîne. Et donc, nous tenons beaucoup à cette notion de service public de gratuité et sans publicité. Comme ça, nous pouvons être présents dans tous les systèmes éducatifs qui le souhaitent.
Donc, ça veut dire qu'il y a une variété de langues françaises au pluriel sur TV5 Monde.
Ah oui, ça c'est très important pour nous de donner à voir et à entendre toutes les cultures francophones, donc tous les accents aussi de la francophonie. Et donc nous essayons, dans la mesure du possible, parce que bon, je dirais que le nerf de la guerre pour notre travail, ce sont les questions de droit, puisqu'on essaye de proposer notamment aux enseignants des vidéos qui soient téléchargeables gratuitement, bien sûr. Donc nous devons libérer les droits pour le téléchargement, entre autres. Et donc, on essaye vraiment de montrer cette diversité à travers les programmes, avec des programmes qui viennent du continent africain, du continent américain, européen. Voilà, on essaye vraiment de montrer cette francophonie plurielle.
Est-ce qu'il y a de la concurrence sur votre secteur d'activité ?
Alors, oui et non. dans la mesure où nous sommes gratuits, c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, on a plein de concurrents, mais qui sont souvent d'ailleurs des partenaires et des amis et des collègues. Je citerai entre autres Radio France Internationale, qui a le même type de service donc à partir de la radio, et avec qui nous collaborons souvent sur des projets communs, notamment ces dernières années sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, où nous avons créé du matériel à partir d'émissions de radio et des missions de télévision, et avec des fiches pédagogiques et des séries d'exercices qui sont communs aux deux structures.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être dans l'Assemblée des personnes que vous connaissez, des enseignants avec lesquels vous travaillez ?
Tout à fait. Donc cette émission 7 jours sur la planète a été complètement refondue en septembre 2024 avec des chroniques sur la langue française qui n'existaient pas dans l'ancienne version de l'émission, qui était un magazine d'information avec des reportages tout simplement. Donc là, on a essayé vraiment aussi d'insuffler un petit peu plus de langue française. Nous avons des chroniques sur les mots de l'actualité et sur les réseaux sociaux, ce que nous avons développé dernièrement sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ce sont aussi des chroniques sur la phonétique, la prononciation du français, avec Magali Bourreux, qui est une spécialiste et aussi une intervenante durant ce congrès.
là, qu'on pourra écouter cet après-midi pour les personnes qui seront là. Et alors, vous n'allez pas dans le format, disons, youtubeur ?
Non, parce qu'il faut avoir des compétences. Alors Magali, oui, je pense qu'elle pourrait être youtubeuse. Je crois qu'elle a une... je ne crois pas. C'est sûr, elle a une chaîne YouTube. Et nous, dans notre petite équipe, on essaye aussi d'animer des petites chroniques comme ça. Bon, peut-être qu'elles seront sur YouTube un jour. Mais voilà, sur TikTok et sur Instagram, ça fonctionne déjà pas mal. Il y a une chronique qui existe sur le vocabulaire, il y a une chronique sur la prononciation, et avec mes collègues, on va plutôt se concentrer sur la grammaire et sur l'éducation aux médias.
RFI, le goût du monde, gastronomie gombomania. Une chronique de Clémence Denavit.
Parce qu'il faut bien choisir, nous l'appellerons gombo. Mais gombo ne dira rien aux Mauriciens qui aiment, eux, le lalo, comme en Guyane. Kalia, Kanja, Gnawa, Bamia... Et la litanie gourmande se poursuit. Kiabo au Brésil, okra aux États-Unis, pung barang au Cambodge, mluria au Maroc, ladies fingers disent les Indiens, doigts de femme. Car ce petit légume, fruit en réalité, mais consommé le plus souvent comme un légume, est aussi fin, long, élégant, délicat que le doigt d'une femme. Femme du Sud, le gombo aime la chaleur. La plante aurait été découverte en Égypte, mais c'est l'Afrique sa mère, son ancrage. L'Afrique dont les enfants furent envoyés, enchaînés, de par le monde, au Brésil, à Saint-Domingue, en Haïti ou encore dans les plantations du Nouveau Monde, du Mississippi ou de Louisiane. On raconte que les esclaves dissimulaient les graines de gombo dans leurs cheveux, leurs oreilles ou au creux de leurs nombrils, en contrebande évidemment, pour la planter et être sûr d'avoir de quoi se nourrir où qu'ils aillent. Les graines furent plantées et sont aujourd'hui devenues incontournables.
Un bon ragoût peut-être, avec de la sauce, des gombo. Et peut-être un bon pain de maïs comme fait votre dame.
Tout se mange dans le gombo, à qui connaît son affaire. Ses graines peuvent être torréfiées, elles rappellent le café. Ce qui fait sa particularité, et ce pourquoi on l'aime tant, ce gombo, c'est sans doute la substance qu'il libère, sorte de sève, un peu visqueuse, glissante, qui épaissit à la perfection les sauces, les soupes et les ragoûts. Le gombo, c'est un faire-valoir, une épice, un accompagnement, un plat en soi... Un agent secret. Il se mêle, nous confie le chef camerounais Alexandre Belaola, se combine en toute discrétion, mais toujours efficacement.
Vous êtes dans une neutralité, plus dans la texture. Il va vous apporter une autre liaison, une autre dimension. N'en mettez pas en très grande quantité, ce n'est pas le plat principal. La cuisine, c'est un peu comme de la peinture. C'est la toile de fond qui permet aux éléments qui sont mis en avant d'être ressortis. Par exemple, si on faisait un bourguignon avec du gombo, le gombo n'est pas la vedette. Le gombo va nous apporter une force, tout simplement, pour mettre en valeur tous les autres éléments. Et dans le mafé, il apporte une certaine épaisseur et il renforce le goût de la sauce d'arachide. Vous mettez un peu de piment dans le gombo, il prend une autre dimension. Et j'ai envie de dire, un gombo ne se mange jamais sans piment.
Saviez-vous enfin que, si l'on en croit les mythes et les légendes bien sûr, c'est aussi un peu grâce au gombo que l'on a découvert le maïs. Mais ça, c'est une autre histoire.
Gombomania, une chronique, le goût du monde sur RFI par Clémence Denavit. Bonjour Marianne Agrippini.
Bonjour.
Alors vous êtes ici présente sur cet événement pour présenter le Factoscope, mais vous êtes aussi doctorante et grand reporter. Alors quelle casquette aviez-vous envie de nous présenter pour commencer ?
Alors, on va commencer par ma raison d'être ici aujourd'hui. Je suis rédactrice en chef du site factoscope.fr, qui est un site qui agrège des contenus de fact-checking de médias francophones du monde entier. Donc aujourd'hui, on a 24 médias partenaires de 14 pays, dont 11 situés en Afrique. Et donc, cette plateforme, elle agrège ces contenus, donc leurs articles, qui traitent de toutes sortes de thématiques, mais qui sont des articles de vérification d'informations, donc de fact-checking ou de debunking, comme on dit. Et on leur donne à la fois une visibilité, puisqu'en les mettant côte à côte et en leur donnant un site qui les met tous ensemble, ça leur donne de la visibilité. Et par ailleurs aussi, c'est une plateforme sécurisée, puisque dans un certain nombre de pays, dès que vous touchez à des sujets un peu sensibles, vos sites, vos plateformes peuvent être piratées. Par ailleurs, il y a d'autres problèmes aussi d'accès parfois au réseau, donc ça leur donne aussi un espace sécurisé. Et par ailleurs, sur cette plateforme, on présente aussi des contenus d'éducation aux médias. Donc on a tous ces contenus sont gratuits et en accès libre. Une partie sont réalisées par notre partenaire Nothing to Hide, qui est une association qui fait de la formation de journalistes et de gens partout dans le monde pour sécuriser ces données. Et cette association donc, nous fournit un certain nombre de contenus d'éducation aux médias. Et puis nous avons donc des ateliers qui sont des ateliers clés en main d'éducation aux médias qu'on peut télécharger gratuitement sur le site, des petits formats, des grands formats pour différents types d'âge et de public. Et puis on a aussi toute une partie recherche alimentée par les chercheurs du laboratoire PRIME de l'Université de Tours, de l'École publique de journalisme de Tours, qui traite des questions de vérification d'informations, d'éducation aux médias. Donc on a un certain nombre de ressources universitaires également disponibles sur ce site qui a quelque part trois casquettes lui aussi.
Donc là par exemple on peut voir des articles, donc non, le gombo ne permet pas de lutter contre les fuites urinaires, le vieillissement de la peau ou les problèmes de fertilité.
Alors oui, tout à fait. Voilà, on s'en rend compte. Il y a un certain nombre de médias qui traitent, qui débunkent des sujets liés aux questions de santé. Et en fait, parfois, on peut se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Mais en fait, ces croyances sont véhiculées et parfois, alors là, ça pourrait presque, on peut se dire, bon, bah, c'est pas grave, les gens consomment du gombo, c'est pas mauvais pour la santé, quoi. Voilà. Mais il peut y avoir des choses qui sont plus graves. Il y a des thématiques qui sont liées à des sujets de santé où on dit, bah, voilà, vous allez guérir du cancer en faisant ci ou ça. Et en fait, malheureusement, non, mais les gens y croient. Donc, ça vaut le coup de débunker ces choses-là. Et on a toutes sortes de thématiques. On a classé nos sujets en thématiques éducation, environnement, institutions, politique, santé et sciences, sécurité et défense et société. Et on a des médias qui sont des médias, alors parfois, par exemple, comme un média, un média canadien qui... Ah ben, je l'ai pas mis là. Un média canadien qui s'appelle l'agence Science Presse, qui traite uniquement de questions scientifiques et qui débunk un certain nombre de croyances liées à des sujets scientifiques. Voilà. Et puis, on a des sujets sur des thématiques assez compliquées liées aussi aux tensions géopolitiques dans les pays, notamment en Afrique. On a des sujets, là, par exemple, de nos confrères de Roumanie, beaucoup de fake news qui circulent autour de l'Europe. L'Europe qui imposerait telle ou telle règle, qui empêcherait les gens de faire ci et ça, et des choses qui sont parfois véhiculées par des responsables politiques. Donc, par exemple, les confrères de Roumanie, eux, débunkent beaucoup de propos tenus par des responsables politiques. Ils vont vérifier si ces propos sont vrais ou faux, et bon, en l'occurrence, dans un certain nombre de cas, soit ils sont faux, soit ils sont sortis de leur contexte, où ils présentent des réalités qui ne sont pas tout à fait justes.
Donc voilà, un travail de vrai journaliste, hein, quand même, c'est des médias reconnus, sérieux, qui peut être utilisé aussi bien en éducation en médias que par des étudiants en école de journalisme ou qui que ce soit.
Oui, tout à fait. Et puis, on a une partie, d'ailleurs, vous évoquez les étudiants en école de journalisme. Les étudiants de l'école de journalisme de Tours travaillent aussi pour ce site internet. Et donc, on les initie aux techniques de fact-checking. Et ensuite, ils fabrique aussi des articles, et donc il y a aussi une production qui vient de ces étudiants et qu'on peut retrouver donc sur le site. Et puis on accompagne en formation certains confrères qui n'ont pas de cellule de fact-checking dans leurs médias. Donc là, par exemple, en Mauritanie, il y a eu un programme pendant 2 ans d'accompagnement de confrères de Mauritanie pour les former au fact-checking. Et là, ça y est, un de ces médias qui s'appelle le quotidien de Nouakchott a rejoint la plateforme, et donc nous avons agrégé les contenus de ce média sur des thématiques des sujets liés à la Mauritanie.
Et alors, vous êtes aussi doctorante.
Alors oui, j'ai changé de vie puisque moi j'ai passé 19 ans à Paris Match, où je suis entrée en 2004, et je suis partie l'année dernière, en 2023, suite au rachat de mon magazine par Vincent Bolloré, au changement de ligne éditoriale. Et donc j'ai décidé de changer de vie après ça. Donc à la fois je suis rédactrice en chef de Factoscope, je suis aussi pigiste, donc journaliste freelance pour plusieurs médias de presse nationale, et je mène cette thèse à l'université Paris-Panthéon Théon Assas sur le rôle et la place des journalistes et des médias dans l'éducation aux médias et à l'information. Je suis partie du constat qu'en fait, ce qui s'est joué, ce que j'ai vécu moi, c'était pas juste le rachat d'un média. Je pense que ce qui s'est joué aussi, c'est, ça va plus loin en fait, il est question de la démocratie derrière tout ça. Et je pense que les journalistes ont un rôle à jouer et que ce rôle passe aussi par de l'éducation aux médias et à l'information. Et je pense que je suis pas la seule à penser ça, puisqu'on voit que depuis, notamment, alors les journalistes sont toujours investis dans l'éducation aux médias, hein, depuis les années 70, et puis ensuite la semaine de la presse et des médias à l'école qui a été lancée par le CLEMI en 1989. Mais au-delà de ça, depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une prise de conscience collective de la profession, de la nécessité de s'engager dans l'éducation aux médias et de se mobiliser, quoi. Donc moi, je travaille sur les journalistes qui sont engagés dans trois directions, à la fois les journalistes engagés dans des associations de journalistes engagés dans l'éducation aux médias, l'association Entre les Lignes, par exemple, qui regroupe des salariés des groupes Le Monde, l'AFP et Contexte, et des journalistes de l'association La Chance, par exemple. Aujourd'hui, il y a presque 210 journalistes qui sont pour la plupart des journalistes pigistes freelance, qui travaillent via cette association et qui mettent en place des actions d'éducation aux médias, notamment dans le cadre scolaire, mais pas que. Ensuite, je travaille sur les journalistes engagés via leurs médias, parce qu'on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de médias, je pense à terme tous les médias, de tous horizons, presse écrite, audiovisuel, numérique, télévision, radio, s'engageront dans des initiatives. Alors après, parfois quelques petites initiatives, parfois des plus grosses initiatives, mais ils s'engagent dans l'éducation aux médias. Puis je m'intéresse aussi aux journalistes qui s'engagent à titre individuel dans l'éducation aux médias, qui mettent en place des actions, qui sont en contact avec des établissements, etc. Et j'ai réalisé que cet engagement de la profession s'inscrit aussi dans un contexte de précarisation de la profession. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 25% des journalistes sont pigistes ou en CDD. 25% sur là, on parle des journalistes titulaires de la carte de presse, qui sont aujourd'hui environ 34 000 en France. Donc 25% de 34 000, ça fait quand même beaucoup de journalistes. Et que cette précarisation de la profession peut aussi les inciter ou peut leur permettre d'aborder l'éducation aux médias comme un potentiel aussi débouché en termes économiques. Et tout ceci s'inscrit dans un contexte qui est celui de la mise en place de la part collective du pass culture. Le pass culture par individuel, tout le monde connaît un petit peu ça. Ça, c'est les jeunes qui ont de l'argent tous les ans pour dépenser en livres, en cinéma, en télévision, en spectacle, pour acheter des produits culturel, entendu au sens large, mais depuis 2022, il y a autre chose, c'est la part collective du pass culture. Et la part collective du pass culture, c'est chaque élève qui génère une somme d'argent entre 20 et 30 euros par an, ce qui fait à peu près 800 euros par classe en moyenne, et c'est l'équipe éducative qui peut se saisir de cette somme et mener des actions d'éducation artistique ou culturelle, et donc d'éducation aux médias. Donc, la mise en place de Space Culture a généré une forme de marché, en fait, une forme de marché de l'éducation aux médias. Et donc, je constate qu'il y a eu une transformation des pratiques des journalistes en matière d'éducation aux médias. On est passé d'activités qui étaient au départ des activités bénévoles. Les journalistes allaient faire des interventions de manière bénévole, mais donc épisodique, et donc de manière très limitée, parce que c'était sur leur temps de loisir, de leur temps personnel, ou parfois certaines entreprises laissent les journalistes aller faire ces actions sur leur temps de travail, mais majoritairement c'était sur leur temps personnel. Et aujourd'hui, ça devient des activités rémunérées et donc qui peuvent constituer un débouché, notamment pour ces journalistes pigistes, slash et ou précaires.
Les membres du Pigistan. Si on veut suivre vos travaux, l'avancée de votre thèse, alors il y a une vidéo sur le site de l'ARCOM. Où est-ce qu'on peut suivre vos travaux aussi ?
Ah, ben alors ça, c'est une bonne question. La thèse, c'est un travail de longue haleine. Alors effectivement, on mène on a parfois des communications, comme disent les chercheurs. Moi, je découvre cet univers-là, donc je m'initie aux codes et aux pratiques et aux rites du monde de la recherche. Là, par exemple, la semaine prochaine, je vais aller à Lyon. Il y a un groupement de tous les chercheurs qui travaillent autour des questions liées au journalisme. Donc je vais faire une présentation, mais ça sera une présentation de 10 minutes, donc ça va être vraiment très très court. Et sinon, je vais avoir un article, normalement, qui doit être publié début 2025 dans une revue scientifique. Et donc cet article, il m'a pris un temps phénoménal. Je crois que c'est le plus long article de ma vie. Entre le moment où j'ai commencé à écrire cet article et le moment où il va être publié, je pense qu'il se sera écoulé un an et demi, voire deux ans, ce qui est une durée normale dans le monde de la recherche, il faut le savoir. Donc moi qui viens du monde de la presse, du news, tout ça, ça me fait quand même un drôle d'effet. Donc voilà, donc j'espère pouvoir présenter au public ce premier article dans lequel il y a y a beaucoup d'éléments. Alors évidemment, c'est un article, ce n'est pas le contenu de ma thèse. Ma thèse, j'espère la finir idéalement à l'automne 2026, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais voilà, dans cet article, il y a quand même beaucoup d'éléments de ce que je viens d'évoquer, donc j'espère début 2025.
Et c'est quoi la revue ?
La revue, elle s'appelle « Politique de communication ».
Ben merci à vous, on mettra tout ça en lien de ce podcast et puis bonne conférence.
Merci beaucoup.
Radio Campus Tour.
Les radios associatives, heureusement que ça existe.
Radio Campus Tour.
Mais malheureusement, elles n'ont pas forcément la force, l'impact qu'ont les médias nationaux.
99.5 FM.
Les médias ont un rôle à jouer, un grand rôle. Tant qu'ils n'appartiennent pas tous à Bolloré.
RadioCampusTour.com.
J'espère que vous en savez un peu plus sur l'enseignement du français langue étrangère en France, mais aussi à l'étranger. Le sujet mériterait d'autres émissions et peut-être que vous aurez le plaisir de les entendre. En attendant, je vous invite à écouter une émission à retrouver sur nos ondes le samedi de 10h à midi. Une émission qui s'appelle Windeck Tour, qui est animée par Leonardo. Alors, pour vous dire quelques mots sur cette émission, je vous lis la présentation. Windeck Tour est une aventure sur le rythme musical angolais, mais aussi un endroit pour explorer la langue et la culture française avec des reportages, des interviews ou des jeux. L'animateur, c'est Léo, demandeur d'asile en France, récemment arrivé à Tours et étudiant au QFE. Je vous invite à écouter les podcasts de cette émission, à l'écouter en direct le samedi de 10h à 11h et à réécouter les podcasts de La Méridienne sur notre site Radio Campus Tour et sur les plateformes. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes, évidemment.